Évangile selon Marc, chapitre 2, versets 1 à 12.
Lecture de la parole. Et il entra de nouveau dans Capernaum quelques jours après, et on ouït dire qu'il était à la maison. Et aussitôt beaucoup de gens s'y assemblèrent, de sorte qu'il ne se trouva plus de place même auprès de la porte. Et il leur annonçait la parole. Et des gens viennent à lui amenant un paralytique porté par quatre personnes. Et ne pouvant s'approcher de lui à cause de la foule, ils découvrirent le toit du lieu où il était. Et l'ayant percé, ils descendirent le petit lit sur lequel le paralytique était couché. Et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et il y avait là quelques-uns des scribes assis et raisonnant dans leur cœur. Pourquoi celui-ci parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés sinon un seul, Dieu? Et aussitôt Jésus, connaissant dans son esprit qu'ils raisonnaient ainsi en eux-mêmes, leur dit. Pourquoi faites-vous ces raisonnements dans vos cœurs? Lequel est le plus facile de dire au paralytique? Tes péchés te sont pardonnés? Ou de dire, lève-toi, prends ton petit lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, il dit au paralytique, « Je te dis, lève-toi, prends ton petit lit et va dans ta maison. » Et il se leva aussitôt, et ayant pris son petit lit, il sortit en la présence de tous, de sorte qu'ils en furent tous étonnés, et qu'ils glorifiaient Dieu, disant, « Nous ne vîmes jamais pareille chose. »
Lecture de l'étude. Obligé de rester en dehors de Capernaum pour éviter la foule curieuse qui le gênait dans son service, Jésus y rentra au bout de quelques jours afin de continuer son ministère. Dès qu'on apprit son arrivée, beaucoup de gens s'assemblèrent dans la maison où il se trouvait, de sorte qu'il n'y avait plus de place même auprès de la porte. Là, il leur annonçait la parole. La présentation de la parole est la chose importante dans tout service de la part de Dieu. Dans celui de Jésus, elle tenait la première place. Voir chapitre 1. Dans tous les chapitres, nous le voyons prêchant et enseignant. Les miracles qu'il accomplissait accompagnaient la parole. Il témoignait de la puissance et de la présence de Dieu agissant en grâce au milieu de son peuple. Mais Dieu opérait dans les cœurs par la parole. Hébreux 2, versets 3 et 4.
Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut qui, ayant commencé par être annoncé par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'avaient entendu, Dieu rendant témoignage avec eux par des signes et des prodiges, et par divers miracles et distributions de l'Esprit Saint selon sa propre volonté.
Aujourd'hui, de même, c'est par la prédication de la parole pure et simple que Dieu peut accomplir son œuvre. Aussi Paul écrivit-il à Timothée en vue des jours mauvais auxquels nous sommes parvenus, « Prêche la parole, insiste en temps et hors de temps » de Timothée 4, verset 2. On peut entendre facilement de magnifiques discours sur des questions religieuses et morales qui frappent par leur beauté, et attirent des foules, mais s'ils ne présentent pas la parole de Dieu, ils ne produisent ni conviction de péché, ni conversion, car la parole de Dieu seule atteint la conscience et répond à ses besoins. Dans le ministère de Jésus, des actes de puissance accompagnaient la prédication de la parole, car il accomplissait au milieu de son peuple ce que leurs Écritures avaient annoncé. Quoique fait à la ressemblance des hommes, Philippiens 2, verset 7-8, il était celui dont David dit « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes infirmités, qui rachète ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de compassion. » Psaume 103, verset 3 et 4. Convaincus de sa puissance et de sa bonté, quatre hommes amènent à Jésus un paralytique. Ne pouvant s'approcher à cause de la foule, ils font descendre le lit du malade par une ouverture pratiquée dans le toit de la maison. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Jamais on ne fait appel à la bonté de Jésus en vain. La foi trouve toujours en lui une pleine réponse aux besoins créés par le péché. Il faut simplement, à l'exemple de ceux qui apportaient ce malade à Jésus, avoir conscience de ses propres besoins et croire à la puissance et à la bonté de celui qui a quitté la gloire pour délivrer ses créatures des conséquences du péché. La réponse de Jésus fait bien comprendre que tous les maux proviennent du péché. Mais, grâce merveilleuse, lui-même apportait le remède où se trouvait le mal, afin que l'homme, impuissant à se délivrer, obtint par la foi une complète guérison. Toute l'activité déployée dans ce but vient de Dieu. Les scribes, témoins de ce miracle et méconnaissant Jésus, raisonnaient dans leur cœur, disant « Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés sinon un seul Dieu ?» Cette dernière phrase était exacte. Mais précisément, Dieu se trouvait là, sous la forme d'un serviteur descendu du ciel. Il avait voilé sa gloire pour être accessible à tous. Mais connaissant leur raisonnement, il démontre pourtant sa divinité, car il leur dit « Pourquoi faites-vous ces raisonnements dans vos cœurs ? Lequel est le plus facile, de dire au paralytique « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton petit lit et marche ?» Les péchés ont causé tous les maux. C'est pourquoi, sous le gouvernement de Dieu, sous lequel Israël se trouvait, une maladie résultait de tel ou tel péché, de sorte que c'était guérir celui qui en souffrait que de lui dire « Tes péchés te sont pardonnés ». Dieu seul pouvait faire cela. On retrouve le même principe s'il s'agit du pardon éternel de nos péchés. Dire à un pécheur repentant et croyant « Tu es sauvé », c'est lui dire « Tes péchés te sont pardonnés ». Ceci résulte, pour le pécheur aujourd'hui, comme pour ce paralytique, de la venue de Jésus ici-bas. Mais il ne se borna pas à déployer sa puissance et sa bonté en faveur de son peuple terrestre. Il a porté nos péchés en son corps sur le bois, et par sa meurtrissure nous avons été guéris. 1 Pierre 2, 24.
Il lui-même a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions à la justice, par la meurtrissure duquel vous avez été guéris.
Pour convaincre ces scribes raisonneurs, Jésus leur dit « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, il dit au paralytique, « Je te dis, lève-toi, prends ton petit lit et va dans ta maison. » Ils en furent tous étonnés et glorifiaient Dieu, disant, « Nous ne vîmes jamais pareille chose. » Jamais, en effet, dans ce monde, on avait vu Dieu dans un homme, le Fils de l'homme, disposant de la grâce et de la puissance divine pour délivrer les hommes de leurs péchés et de leurs conséquences. Nous sommes heureux d'être encore dans le temps où cette grâce et cette puissance agissent en faveur de tous, par l'Évangile, qui est la puissance de Dieu en salut à quiconque croit, aux Juifs premièrement et aux Grecs. Romains 1, verset 16. Appel de Lévi, versets 13 à 17.
Lecture de la parole. Et il sortit encore et longea la mer, et toute la foule venait à lui, et il les enseignait. Et en passant, il vit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau de recette, et il lui dit « Suis-moi ». Et se levant, il le suivit. Et il arriva, comme il était à table dans sa maison, que beaucoup de publicains et de pécheurs aussi se trouvèrent à table avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux, et ils le suivaient. Et les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les pécheurs, dirent à ses disciples « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les pécheurs ? Et Jésus, l'ayant entendu, leur dit, « Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui se portent mal. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. »
Lecture de l'étude. Dans son incessante activité, Jésus longeait la mer de Galilée, entouré d'une foule qui l'enseignait. En passant, il vit Lévi, appelé Matthieu en Matthieu 9, verset 9, assise au bureau de recette et vacante à son service de péager, emploi des plus vils aux yeux des Juifs, parce que le paiement des impôts leur faisait réaliser péniblement leur assujettissement aux Romains. Or, non seulement Jésus désirait chercher et sauver de tels individus, mais il voulait en avoir un avec lui pour l'employer à son service. Il dit à Lévi, « Suis-moi ». Lévi lui obéit aussitôt. Comme nous l'avons vu au chapitre précédent, le Seigneur lui-même choisit ses serviteurs, les appelle et les forme. Après cela, nous trouvons Jésus à table chez son nouveau disciple avec beaucoup de publicains et de pécheurs. Là-dessus, les scribes et les pharisiens demandent « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les pécheurs ?» Pas plus que les scribes témoignent de la guérison du paralytique, ils ne connaissaient Jésus et la grâce qu'il a fait descendre au milieu des pécheurs, parce qu'ils ne pensaient pas avoir besoin de cette grâce. Ils ressemblaient bien peu à ceux qui apportaient le paralytique au Seigneur. Voyant Jésus à table avec ceux qu'ils appelaient des pécheurs, ils le considéraient comme souillé par leur contact et identifié avec eux, tandis qu'eux-mêmes se tenaient à l'écart avec une pharisaïque dignité. Ils ne connaissaient ni la pureté ni la sainteté parfaite de Jésus qui lui permettait de toucher, sans être souillé, un lépreux, type des pécheurs pour lesquels il était venu. Comme ils voyaient tous les hommes dans un état moral représenté par la lèpre, la fièvre, la paralysie, la cécité, la surdité, le mutisme, il venait pour les guérir, les sauver. Rien donc d'étonnant à ce qu'on le trouvât au milieu de ceux qui se reconnaissaient tels. C'est ce que la réponse de Jésus devait leur faire comprendre. Ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins, mais ceux qui se portent mal. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Le Seigneur ne donnait pas à entendre qu'il y a ici-bas une classe de justes au milieu de laquelle se trouvent des pécheurs qu'il était venu sauver. Il veut dire que ceux qui se reconnaissent tels profitent de son appel. Dieu dit « Tous ont péché » Romains 3, verset 23, mais tous ne le reconnaissent pas et par conséquent n'éprouvent aucun besoin d'un sauveur. Mais tous ne le reconnaissent pas et par conséquent n'éprouvent aucun besoin d'un sauveur. Il faut souvent un long travail de Dieu pour amener quelqu'un à reconnaître son état de péché et de perdition devant Dieu et son incapacité à y changer quoi que ce soit. Inutile de présenter le Sauveur à ceux chez qui cette œuvre n'est pas accomplie. Mais dès qu'une âme a la conviction de sa culpabilité et de son incapacité à effacer un seul de ses péchés, elle accepte avec bonheur, simplement et gratuitement, le salut accompli par la mort de Christ sur la croix. Pour arriver à la conviction de sa culpabilité devant Dieu, il ne faut pas se comparer à d'autres pécheurs, parce qu'on est facilement disposé à se croire meilleur que son prochain. La seule mesure du bien et du mal est Dieu lui-même, dans sa parfaite sainteté. C'est à lui qu'il faut se comparer pour savoir si l'on a besoin du sang de Christ qui purifie de tout péché. C'est d'après cette mesure-là que tous ceux qui comparaîtront devant le grand trône blanc seront jugés. La parole de Dieu apporte maintenant au pécheur la lumière à laquelle il doit s'examiner pour voir son état. Elle lui présente le Sauveur et son œuvre parfaite à la croix, qui suffit pleinement pour sauver le plus grand des coupables. Devant le grand trône blanc, il sera trop tard pour comprendre que l'on avait besoin d'un Sauveur. Tous le comprendront, mais le juge en présence duquel ils comparaîtront sera le Sauveur qu'ils ont méprisé. L'époux présent, versets 18 à 22.
Lecture de la parole. Et les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient, et ils viennent et lui disent « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, mais tes disciples ne jeûnent pas ?» Et Jésus leur dit « Les fils de la chambre nuptiale peuvent-ils jeûner pendant que l'épouse est avec eux ? Aussi longtemps qu'ils ont l'épouse avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront lorsque l'époux leur aura été ôté, et alors ils jeûneront en ce jour-là. » Personne ne coud un morceau de drap neuf à un vieil habit, autrement la pièce neuve emporte une partie du vieil habit, et la déchirure en devient plus mauvaise. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin rompt les outres et le vin se répand, et les outres sont perdues. Mais le vin nouveau doit être mis dans des outres neuves.
Lecture de l'étude. Quelle merveilleuse grâce Jésus apporte aux pécheurs. Ceux qui en étaient les objets avaient pour part la paix et la joie. On peut se représenter le bonheur de cette compagnie de pécheurs à table chez Lévi avec Jésus, de même que la joie des disciples entourant leur maître bien-aimé, depuis longtemps attendu. Les disciples de Jean et les pharisiens n'avaient pas compris la grâce venue par Jésus-Christ, ni le changement apporté dans le cœur de celui qui l'avait reçu. C'est pourquoi ils viennent à Jésus et lui demandent pourquoi ses disciples ne jeûnaient pas comme eux-mêmes le faisaient. Jésus leur répond, « Les fils de la chambre nuptiale peuvent-ils jeûner pendant que l'épouse est avec eux ? Aussi longtemps qu'ils ont l'épouse avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. » Pour ceux qui avaient reçu Christ, leur joie était pareille à celle des amis d'un époux en un jour de noces. Personne ne songerait à jeûner dans un moment pareil. La raison pour laquelle les disciples de Jésus ne jeûnaient pas était aussi simple que merveilleuse. Ils avaient l'épouse avec eux. Joie précieuse que celle qu'apporte dans le cœur la connaissance et la présence de Jésus venu du ciel pour donner à l'homme un bonheur infiniment plus grand que celui de l'innocence perdue par le péché d'Adam. Tous nos lecteurs le connaissent-ils? Mais le Seigneur informe les disciples qui l'entourent qu'ils auront à jeûner. Mais des jours viendront lorsque l'époux leur aura été ôté, et alors ils jeûneront ce jour-là. Jésus fait pressentir sa mort. La haine des hommes ne le supportera pas au milieu d'eux. Moment bien douloureux pour les disciples que sa présence avait réjoui. En Jean 16, verset 20, Jésus leur dit, « Vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira, et vous, vous serez dans la tristesse. » Et au verset 22, « Et vous donc, vous avez maintenant de la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et personne ne vous ôte votre joie. » Ces paroles indiquent la cause et le caractère de la joie du monde et des croyants. Le monde se réjouit sans Christ, et même parce que Christ ne le gêne plus par sa présence. Le croyant ne peut avoir de vraie joie qu'en lui. La foi le rend présent à ceux qui attendent de le voir dans sa gloire. Au milieu même des tribulations, le croyant peut se réjouir toujours dans le Seigneur. Philippiens 4, verset 4.
Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Encore une fois, je vous le dirai, réjouissez-vous.
Si le monde qui se réjouit sans Christ ressentira la plus vive terreur lorsqu'il apparaîtra en gloire pour le jugement. Jésus montre, par l'exemple du morceau neuf ajouté au vieil habit et du vin nouveau versé dans de vieilles outres, que les formes propres au système de la loi ne pouvaient convenir à la puissance de la grâce qui apportait ce que la loi n'avait jamais pu donner. Il ne faut pas mêler les deux choses. Elles ne s'accordent pas plus qu'un morceau neuf à un vieil habit, car le neuf ne fait que mettre en évidence l'infériorité du vieux. Le morceau neuf emporte le vieux et la déchirure en est plus mauvaise, comme de vieilles outres ne peuvent supporter la force du vin nouveau. Chaque chose doit demeurer à sa place. Le système de la loi n'ayant rien amené à la perfection, il doit faire place à la grâce apportée par Jésus. Le mélange de ces deux systèmes, celui de la loi et celui de la grâce, caractérise l'état actuel de la chrétienté, qui n'est autre qu'un système de forme revêtu du nom de Christ. Le sabbat, versets 23 à 28.
Lecture de la parole. Et il arriva qu'il passait par les blés en un jour de sabbat. Et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Et les pharisiens lui dirent, « Voici, pourquoi font-ils le jour de sabbat ce qui n'est pas permis ?» Et lui leur dit, n'avez-vous jamais lu ce que fit David quand il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment, au titre Abiathar, souverain sacrificateur, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il n'est pas permis de manger sinon au sacrificateur, et en donna aussi à ceux qui étaient avec lui. Et il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, non pas l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est Seigneur aussi du sabbat.
Lecture de l'étude. Le récit suivant, en nous rapportant de nouvelles objections des pharisiens, fait aussi ressortir la différence qui découle du changement de dispensation. Les disciples de Jésus, tout en passant par les blés, arrachaient des épis pour les manger, chose que la loi permettait de faire, Deutéronome 23, verset 25.
Si tu entres dans les blés de ton prochain, tu pourras arracher des épis avec ta main, mais tu ne lèveras pas la faucille sur les blés de ton prochain.
Les pharisiens en furent scandalisés parce qu'ils faisaient cela un jour de sabbat. Ils voulaient à tout prix conserver les ordonnances légales dont ils ne comprenaient pas la signification. Le mot sabbat, qui signifie repos, s'appliquait au septième jour dans lequel Dieu se reposa lors de la création. Genèse 2, versets 2 et 3.
Et Dieu eut achevé au septième jour son œuvre qu'il fit, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il fit. Et Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car en ce jour il se reposa de toute son œuvre que Dieu créa en la faisant.
Lorsque Dieu appela à lui le peuple d'Israël, il lui imposa le sabbat comme signe entre lui et Israël. Exode 31, versets 13 à 17.
Toi parle aux fils d'Israël, disant, certainement vous garderez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous, en vos générations, pour que vous sachiez que c'est moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. Et vous garderez le sabbat, car il vous sera saint. Celui qui le profanera sera certainement mis à mort, car quiconque fera une œuvre en ce jour-là, cette âme sera retranchée du milieu de ses peuples. Pendant 6 jours le travail se fera, et le septième jour est le sabbat de repos consacré à l'Éternel. Quiconque fera une œuvre le jour du sabbat sera certainement mis à mort. Et les fils d'Israël garderont le sabbat pour observer le sabbat en leur génération, une alliance perpétuelle. C'est un signe entre moi et les fils d'Israël à toujours. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le septième jour il s'est reposé et a été rafraîchi.
Dieu montrait ainsi son intention d'introduire l'homme dans son repos. Cette institution faisait partie des ordonnances par lesquelles l'homme vivrait s'il les pratiquait. Mais il leur désobéit, en sorte que la venue de Christ mit de côté le sabbat comme ordonnance, mais non la pensée de Dieu d'introduire l'homme dans son repos. Dieu allait y travailler lui-même. C'est pourquoi Jésus était ici-bas, disant aux Juifs, dans une circonstance analogue, « Mon Père travaille jusqu'à maintenant et moi je travaille », Jean 5, verset 17. Il a travaillé, il a accompli sur la croix l'œuvre en vertu de laquelle le croyant peut entrer par grâce dans le repos de Dieu. Le pécheur n'a qu'à croire. C'est pourquoi la foi au sacrifice de Christ a remplacé le sabbat et tout le système légal. Voilà pourquoi nous voyons si souvent dans les évangiles Jésus accomplir des miracles le jour du sabbat. Il montrait par là l'inutilité de la loi pour exécuter les pensées de la grâce de Dieu. Le Seigneur présente encore une autre raison pour laquelle les ordonnances étaient mises de côté. Il cite le cas où David, fuyant devant Saül, avait mangé, ainsi que sa suite, les pains de proposition, chose permise au seul sacrificateur. David, le roi selon le cœur de Dieu, type de Christ, était rejeté, de sorte que le système qui se rattachait à sa royauté n'avait plus sa raison d'être. Ainsi, Jésus étant rejeté, les ordonnances tombaient aussi, mais si le Juif voulait être sauvé, il devait croire à un sauveur rejeté et non plus pratiquer vainement quelque forme de son culte. Au reste, le sabbat, fait pour l'homme, ne lui avait servi de rien, et l'homme n'était pas fait pour le sabbat. Ainsi, le Fils de l'homme, celui dont les droits s'étendent à tout, est seigneur aussi du sabbat. Il pouvait donc en disposer sans que personne eût le droit de l'en empêcher.